nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Baisse un peu l'abat-jour, veux-tu ? Nous serons mieux. C'est dans l'ombre que les cœurs causent, et l'on voit beaucoup mieux les yeux quand on voit un peu moins les choses. Si l'on se souvient encore de Toi et moi, qui fut un succès monumental, la poésie et le théâtre de Paul Géraldi, innovant dans l'entre-deux-guerres, peuvent paraître aujourd'hui un peu datés. Il est pourtant réjouissant de l'entendre remonter le temps dans une émission proposée par Jacques Florent en 1978 et joliment intitulée « Voler un peu d'enchantement au passé ». Avec l'enthousiasme et la verve d'un jeune homme né en 1885, avec une pointe de nostalgie aussi, le poète se souvenait de son enfance et de ses premières émotions théâtrales. Intact dans ses admirations et ses affections, nommant Sarah Bernard par son petit nom, Paul Géraldi esquissait les portraits riches en anecdotes de quelques-uns de ceux qui peuplaient sa mémoire. Rostand, Henri Bataille, Bert Zeps, Hoffmannsthal, Max Reinhardt, son camarade de lycée Jules Berry, Ray Jeanne, Guitry père et fils, Pierre Freinet, Colette, Germaine Lubin, qui fut son épouse, et encore la toute jeune Madeleine Renaud.
Voler un peu d'enchantement au passé. Avec Paul Géraldi.
Il était autrefois un autre monde. Oh, pas forcément meilleur que le nôtre, mais si différent. Regardez Paris vu de ballon. 20 fiacres tournent en rond place de l'Étoile. 20 fiacres, pas un de plus. Je les ai comptés. À moins que parmi ces attelages, qui de haut paraissent si petits, il y ait plus élégant qu'un fiacre. Quelques calèches ou tilburies revenant de promenade par l'avenue du Bois. Je lis le journal du jour. Au bois, le ciel est clair et la chaleur du soleil à peine sensible à travers la soie des ombrelles. Les petites filles jouent au diabolo. Leur mère bavarde ou flirte. L'endroit s'appelle le sentier de la vertu. Je crois bien deviner là une ironie. Et les hommes ? Car ce n'est pas seulement le décor et les grâces qui l'accompagnent qui ont changé. Comme ils paraissent graves et importants, ces messieurs coiffés de haute forme, le cou serré dans leur col cassé, la moustache en bataille. Comme ils paraissent vieux, à 40 ans. Ils appartiennent au passé. Il y a belle lurette qu'ils ont disparu. Aucun témoin de la promenade allée des acacias n'existe plus. Personne ne pourra plus raconter lui-même de vive voix ce que je cherche à découvrir à travers les rideaux du temps qui se ferme. Plus de témoins vivants de cette fin du 19e siècle, avant 1900, avant les grandes guerres, avant la mort des empereurs, avant l'avion, avant tout ce que nous sommes devenus. Plus de témoins ? Si, il en reste un. Le dernier, peut-être. Cet enfant de 5 ans qui donne la main à son père. Comment t'appelles-tu ?
Paul Géraldi.
On me mène au théâtre de la Foire. Le théâtre de la Foire, à ce moment-là, tout ce qu'il y avait de snob et de raffiné. Toulouse-Lautrec, tous les dessins de Toulouse-Lautrec sont partis de là, la Goulue. Ça vous dit rien, tout ça ? Mon père vraiment pris par le théâtre, fait une féerie pour le théâtre Cochery qui s'appelle Le Cœur Enchanté. Alors, il y a des démons qui ont des baguettes magiques, qui touchent une chose, qui se transforme. C'est quelque chose, quoi. Et puis alors, il y a la parade sur le devant du théâtre, n'est-ce pas? Et je vois la diva, tout ça extraordinaire. Et puis j'assiste à la représentation et je rentre ébloui. Et alors, j'ai vu cette fée qui a une baguette magique et qui touche des objets, qui les fait changer immédiatement, la féerie. Alors moi, j'ai une baguette de cerceau. J'ai une baguette magique, c'est à savoir s'en servir. Ça ne colle pas, mais ça collera. Et puis un jour, j'étais monté dans un omnibus avec ma mère, et dans l'omnibus, une personne s'assoit en face de nous, salue ma mère, qui me dit « Tu ne salues pas cette dame ?» Je ne connaissais pas cette dame, non. Tu ne reconnais pas ta fée ? C'était ma fée. Ma fée avec un petit chapeau, une voilette, un parapluie aiguille. J'étais furieux. C'était ça, une fée ? Rentré à la maison, j'ai fait une colère épouvantable. On m'a jeté de l'eau à la figure, on m'a couché, on m'a maîtrisé comme on a pu, et mon père est arrivé. Mon père très doux, très calme, il a compris. Alors mon père s'est assis à côté de moi et m'a dit « Les choses ne sont pas si séparées que ça dans la vie. Dans les dames de l'omnibus, il y a quelquefois un peu de fées, et dans les fées, ben, un petit peu d'hommes de l'omnibus, quelquefois, c'est moins bien. Alors il faut arranger ça. »
Dans les villes de province, à Saint-Étienne par exemple, il arrive qu'un tramway emballé déraille et se renverse dans un tournant. À Paris, des ouvriers ont creusé un trou immense dans le ventre de la ville. Pas à Oual, non, place Saint-Michel. On construit le métro. À l'opéra, chante Roméo et Juliette. Et à l'Odéon, Shakespeare est traduit et arrangé à sa manière par le père de Géraldi. Alors, un autre Roméo embrasse Juliette.
J'ai 5 ans. Je vois Roméo qui prend Juliette dans ses bras, les costumes assez beaux. Je les ai ici, j'en ai du moins quelques-uns. N'est-ce pas, assez amusant. Et puis alors, je vois Roméo qui embrasse Juliette. Je me lève dans la loge de ma mère et je dis « C'est dégoûtant !» On m'en fait taire. Et puis alors, il y a la mort de Roméo, l'église, enfin, très mise en scène par Porel. C'était pas rien. Les costumes étonnent maintenant. Il y a des gros glands, ce sont des glands de rideau. À ce moment-là, ça... Mais depuis, les gens rigolent quand ils disent ces gens de rideau. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis, un peu plus tard, je serai mené au cheminot de Richepin. C'est très oublié, le cheminot de Richepin. C'est pas rien, vous savez.
Quand l'oiseau se sent pris à la glu, effaré, s'arrachant les plumes, l'aile folle, oubliant tout, son nid, sa compagne, il s'envole vers le libre horizon grand ouvert devant lui. Ainsi, mon cheminot, loin de moi, s'est enfui.
Et au cinquième acte, c'est la Noël. Et alors, il y a des petits-enfants du pays qui arrivent en chantant « Lugno, lugno, la part à Dieu, les petits boulas de maman, de la fête que je n'en ai froid, un nouveau lieu, lugno, lugno, la part à Dieu. » Bon. Alors, mon père parle avec des corus qui s'arrachent la barbe. Je me disais toujours, il va s'arracher la peau. Ils avaient été collés la barbe. Mais une autre barbe pour l'acte d'après. Et puis arrive un régisseur qui dit, monsieur, n'allons pas pouvoir continuer à jouer. Il y a deux Lugnaud, il y en a un qui est malade. Oh, Lulu Coru, nous sommes au troisième acte. Il y a un acte. C'est pas difficile ce qu'il a à apprendre. C'est trois mots. Vous allez lui apprendre ça, et puis tout de suite le maquiller, l'arranger. Mais monsieur, il faut trouver un Lugnaud. Alors mon père me regarde. Veux-tu être Lugnaud, toi? Et puis il regarde mon père. Il dit, ah oui, mais pourquoi pas? Alors, on m'en prend. Alors, Lugnaud, la voix, parlez plus fort. On ne veut pas vous entendre. Lugnaud, la part à Dieu. Bon, et puis alors, je suis poussé dans la lotte de Décoré. Allez, vas-y. Lugnaud, la part à Dieu. Et bon Noël à vous aussi. Il va foutre le camp, il veut être cheminot, il ne veut pas être propriétaire fermier, et il va partir. C'est pas mal, vous savez, le cheminot. Je vous assure que je peux relire le cheminot et toutes les forêts avec tous leurs oiseaux. Ah quand mon père m'envoyait faire une longue course en me donnant de l'argent pour l'omnibus, je gardais de l'argent pour m'acheter du chocolat et je commençais une tirade d'Hugo qui me conduisait jusqu'à Montmartre. Ils combat terrible, corps à corps. Voilà déjà longtemps que les chevaux sont morts. je bavarde, c'est pas ça. Si vous riez, j'ai l'impression que j'ai du succès, et alors oui. Ça me trouble.
J'aime toujours, comme le petit garçon qui déclame Victor Hugo, les histoires qui commencent par l'empereur de Chine. L'empereur de Chine avait une fille et il souhaitait la marier. Mais la petite princesse avait déclaré qu'elle n'épouserait jamais que l'homme qui lui apporterait la rose bleue. Tous les prétendants de l'Empire se mirent à chercher la rose bleue. Aucun ne put la découvrir. Enfin, un très fin joaillier prit un magnifique saphir et il y tailla une rose qu'il vint offrir à la princesse. La princesse regarda le saphir et dit « Ce n'est pas la rose bleue. » Un peintre de grand mérite peignit alors une rose bleue sur un éventail qu'il présenta à la princesse. La princesse regarda l'éventail et dit « Ce n'est pas la rose bleue. » Alors, un teinturier génial prit une rose et la teignit avec tant de délicatesse qu'il semblait vraiment que cette rose teinte fût une rose naturelle. La princesse regarda cette rose et dit « Ce n'est pas la rose bleue. » L'empereur commençait à se décourager. Quand un jour, un jeune étudiant demanda à voir la princesse. Il lui présenta en tremblant une pâquerette blanche qu'il avait cueillie en passant au bord d'un champ. La princesse regarda le jeune étudiant, regarda la pâquerette blanche et déclara « C'est la rose bleue !» Puisque la princesse a dit que c'était la rose bleue, dit l'empereur, « C'est la rose bleue !» Et il maria la princesse au jeune étudiant. Le petit garçon a maintenant 12 ans. Ce que dit le professeur en classe en 1897, on y croit vraiment. Et qu'est-ce qui fait vibrer le professeur? Quelle nouveauté?
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux,
De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent! Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphant au camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami, ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue.
Campagnard, hé, hardé, c'est-y un nez? Nanin, c'est que navet géant ou ben que melon nain? Militaire, pointé contre cavalerie.
Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot.
Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc, ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.
Mon enthousiasme à propos de Rostand a été indescriptible. D'abord, chez moi, dans ma maison, mon père arrivant avec ma mère au milieu de la nuit, ne pouvant plus cesser d'en parler, ne pouvant pas dormir. Et puis, deux jours après, le lycée, la perturbation du lycée, les professeurs, notre professeur, M. Glachan, assez jeune premier, assez élégant, assez désinvolte, assez jaquette, n'est-ce pas, s'étant procuré des morceaux en ayant cueilli dans des journaux, ne pouvant plus faire sa classe, rapportant Cyrano, revenant dessus, nous tous, espèce d'enivrement, le Cid, le Cid, oui, le Cid, non, Cyrano, vous êtes de l'époque de Cyrano, mes enfants, n'est-ce pas, vous serez de l'époque de Cyrano, voilà comment nous parlait M. Victor Glachan, notre professeur, n'est-ce pas. Et puis alors Paris, on fallait prendre ses places 6 semaines d'avance, enfin, c'était l'immense le succès, comme jamais connu. Alors, au bout de quelques années, le monde, les mondains sont un peu fatigués. On laissait ça au peuple. Et par exemple, notre président de la Société des auteurs, qui s'appelait M. Romain Colus, dans un dîner, s'est mis à déblatérer tout d'un coup contre Rostand. « Ah, on nous fatigue à la fin, mais c'est rien du tout, Cyrano. C'est mauvais, c'est raté, c'est rien, c'est rien, c'est rien pour personne !» Et Tristan Bernard, qui était là avec sa voix du nez, parlait un petit peu comme ça, dit doucement, sauf par le public. Coquelin a joué Cyrano tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il partait jouer Cyrano en Angleterre, il partait Cyrano en Belgique, mais en Espagne, en Amérique. Il y était superbe, d'ailleurs. Ça collait avec l'homme, c'était... Le charme, le côté mousquetaire, le côté poète, le côté amoureux, tout ça réuni, tout ça invraisemblable.
Marin, faquin, butor de pieds plats, ridicule.
Ah,
Et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac.
Bouffon.
Rostand était un peu précieux dans sa toilette, un peu apprêté peut-être, n'est-ce pas?
Vous avez vu ses portraits de ce moment-là. Il a la face complète, c'est en chaud. La moustache un petit peu grande, très cravate, très, très habillé, très gilet, très cravate. Mais c'était une pudeur et une simplicité, car là-dessous, il se cachait. C'était pas un homme qui jabotait. C'était un homme qui mettait un beau gilet pour disparaître sous son gilet. Adore. Il a été pour moi des choses qu'on presque peut pas dire.
Il m'emmenait quelquefois dans sa voiture, nous faisions des choses ensemble. Jamais eu l'impression d'être devant l'homme de génie que je savais qu'il était. J'étais en face d'un camarade, enfin, j'étais en face d'un ami, quoi. D'un père, d'un ami, d'un frère, de tout ce qu'on voudra. Ses précautions, son grand charme, sa modestie chez lui, mon premier déjeuner chez lui, j'étais effaré, je croyais voir le bon Dieu. Pas du tout, c'était Maurice qui parlait, c'était Jean, beaucoup plus gentil. Jean adorait son père. C'était Madame Rostand qui faisait du bruit, qui tapait avec un goût. Et Rostand qui était silencieux, qui attendait, qui écoutait. L'ange a passé, il s'appelait Rostand.
Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche.
Mais alors, il y avait Coquelin. Coquelin qui voulait une pièce. Il avait une pièce pour Sarah, il voulait une pièce. Lui, Coquelin. Coquelin qui avait fait Cyrano, voulait un second Cyrano. Eh bien, disait, alors, je sais ce que je vais te faire. Je vais te faire un coq. Un coq. Un coq. C'est fou que tu te fais. Oui, le coq français, le coq gaulois, la France. C'est le coq. On ne peut pas faire un coq au théâtre, pourquoi non? Ils vont faire un coq. Tu te vois pas avec un des ergots et pattes comme ça? Non. Ben voyons. Oui, tu n'es pas un homme de théâtre, voyons. Et puis, voilà que le Coquelin se prend. Le coq français. Moi, Coquelin, le coq français. Coco! Et puis. La chose se fait, hésite. Là, on commence à trouver que c'est trop long, trop long. Alors on le bafoue un petit peu, on fait des caricatures. Chantecler qui ne paraîtra jamais. Chantecler est enroué. Chantecler. Alors il commence à s'agacer, Rostand. Il veut finir Chantecler, il commence à ne plus faire que ça. C'est dur. Tous les animaux extraordinaires, vous savez. Un peu long, toute cette science qui se mêle. Un peu lion, le chien, un peu lourd. Et Rostand qui s'adresse beaucoup, qui dit « c'est mauvais, c'est mauvais ». Et puis au moment de Chantecler, c'est difficile. Coquelin meurt.
Lucien Guitry le remplace.
Il n'y a rien d'autre. C'est le roi des rois. Et tout de suite, Rostand dit « ça marchera pas. Il n'a pas la voix de ça, il n'a pas l'éclat de ça. Il fallait du rouge dans tout ça. Il fallait une crête de coq. Il l'a pas. Il disait, quand on lui disait, ça ne va pas, quand il me dit, triste, qu'est-ce qui ne va pas, il disait, quand on a le malheur de jouer, répéter Chantecler tous les soirs, il s'en rendait compte. Il n'est pas bête. Et le jour de la générale, Madame Rostand a dit à sa femme, « Je nous fais les feux de la famille royale au temple. »
Le 25 mai 1907, l'opéra comique affiche Mignon d'Ambroise Thomas.
Le pays
Soudain, le feu prend dans les cintres. Les chanteurs restent sur scène pour essayer d'éviter la panique, plus dangereuse encore peut-être que l'incendie. Il y aura 22 corbillards devant Notre-Dame, aux obsèques solennelles des victimes. Et le théâtre sera presque entièrement détruit. Symbole du monde qui s'apprête 7 ans plus tard à mourir. C'est un jeune homme maintenant. Il a 22 ans, léger, élégant, qui regarde autour de lui sans s'inquiéter. À son âge, quoi qu'il arrive, l'avenir vous appartient, n'est-ce pas? Ses premiers poèmes, dira Henri Bataille, ont la grâce pensive et délicate d'un bouleau. Il entre dans un café. Les poètes vivent dans les cafés. Il s'assied à une table auprès de ses amis. Les chaises sont modernes, avec des dossiers qui dessinent des arabesques.
Il y avait à boulevard Saint-Michel à Paris, un caveau. Plus tard, à Saint-Germain-des-Prés, on a dit des caves. C'était un caveau qui réunissait la jeunesse littéraire de ce moment-là. Et il y avait Moréas, il y avait Apollinaire, il y avait Peggy, il y avait des acteurs comme De Max. C'était très brillant. Et j'étais encore au lycée. Et mes camarades m'avaient entraîné là, sachant pas du tout où j'allais. Et puis on m'avait monté sur une table de café, et on m'avait demandé de dire un poème. Je dis un poème. Et quand je redescends, ou j'essaye de redescendre de ma table, il fallait y être aidé. Vous comprenez, là, non? Je vois un petit monsieur à barbiche qui me dit « Je suis Peggy. Vous en avez beaucoup comme ça ?» J'en avais un. Je dis « Oh oui, beaucoup. Mais combien ?»« Oh, vous avez un livre ?»« Mais bien sûr !» Venez me voir demain au cahier de la quinzaine. Et le lendemain, je vais le chercher dans un misérable petit hôtel du côté de boulevard Saint-Michel, et nous voilà allés chez Bataille. Alors, très impressionnant, Bataille, très cérémonieux, un poète, me fait dire des vers, il m'offre du sirop de groseille, d'orgeat de groseille, un sirop comme ça. Et puis il me retient, il faut venir me voir. Et commence une grande amitié avec Bataille. Alors le soir, après le soir, Badi était au théâtre, il était seul, il avait été fatigué de sa journée. J'allais le voir à Avenue du Bois, 12 Avenue du Bois. Et puis alors nous étions dans sa bibliothèque, il me lisait ses vers. Et puis, au milieu de la soirée, il interrompait la conversation pour prendre le théâtrophone. On demandait le théâtrophone, je ne sais pas si ça existe encore, on pouvait brancher le théâtrophone sur des théâtres. Il demandait le théâtre qu'il était, où il était joué. Et alors il écoutait, puis il écoutait la fin de l'acte, les barreaux. Bon, ça va ce soir, ça va. Puis nous attendions le retour de Badi, qui arrivait du théâtre. Alors, combien de rappels aux trois? 100 rappels. C'est moi qui guère. Et Badi, en me foutant à la porte, alors. Bataille m'avait retenu. Restez, me disait. Restez. Puis il était là, prendre la porte. Il avait des délicatesses comme ça. C'était que Badi, fatigué, était mauvaise. Il essayait de pallier, mais il n'était pas le plus fort. Sa voiture était toujours devant sa porte. Et quand il sortait, ou il montait dedans, ou il se faisait suivre par elle. Et le plus souvent, il nous faisait suivre par sa voiture et nous nous arrêtions au pavillon chinois. Alors là, étincelant, très attaché à la littérature d'alors, qui citait. Il ne faudrait pas se tromper, là, il faudrait réfléchir. Comme ma mémoire devient faible. Très épris de Francis Jammes, très attaché aux choses étrangères. J'ai vu souvent D'Annunzio chez lui. Il vivait d'abord avec une admirable comédienne qui s'appelait Berthe Badic. qui lui a rendu de grands services. Et puis plus tard, avec une comédienne d'énormément de valeur aussi, sur un autre plan, moins profond, plus extérieur, qui s'appelait Yvonne Debray. Je l'ai connue entre ces deux femmes. C'était orageux. C'était pas tout simple. Debray, violente, caractère, fiché par le manuscrit par terre. « Oh zut, tu m'embêtes avec ta sale pièce. Mes incarnations sont justes. » Je ne veux pas l'intonation juste. Je veux l'intonation rare. Recommence. Allez, allez, allez. Elle recommençait. Il ne sortait guère, travaillait beaucoup, travaillait tout le temps, donnait presque une pièce par an. Ça a commencé par Résurrection avec Bert Badie. Génial. Génial. Avec, après ça, Maman Colibri.
Que veux-tu dire? Qu'est-ce que c'est que ça, les granges?
C'est une petite maison à droite, sur le chemin de la Touque, où tu vas tous les jours et où Georget se dirige en ce moment.
Mais qu'est-ce que tu veux insinuer? Ah oui, peut-être, en effet, oui. Suis-je allée par hasard?
Maman, comprends-moi. Tu n'iras pas. Tu n'iras plus jamais aux granges.
Mais je...
Non, j'ai pas à te juger. Un fils ne juge pas sa mère. Rien de ta vie ne me regarde. J'ai voulu simplement t'avertir. Je t'aurais, je crois, jamais rien dit, mais vraiment, l'affront que tu viens de me faire... Il y a près d'un mois que je garde seul ce secret. Il ne sortira pas d'entre nous, je te le jure. Tu peux être tranquille, mon père ne se doutera jamais. Il faut qu'il ne s'en doute jamais.
Mon pauvre Richard. Mon pauvre enfant.
J'ai pas autre chose à te dire.
Non! Non, pourquoi t'en aller, Richard? À quoi bon? Oh, maintenant, puisque c'est à toi et non à ton père que le sort a réservé ce choc, pourquoi hypocritement nous éviter, nous fuir sans une parole échangée? Ce serait trop affreux. À mon fils, je dois l'explication si possible de ma conduite.
Non, 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 non. Je répète que je n'ai pas à te juger.
Une série de pièces, et tout ça avec beaucoup de bonheur, jusqu'à un moment où ça a un peu fléchi, et où on a commencé à l'emboîter un petit peu, et à être assez mauvais avec lui. Et il tombait de haut, vous savez, et puis ça a été un petit peu déclinant, et c'est de ça qu'il est mort. La pièce n'avait pas eu son succès habituel. Je ne sais pas si ça avait été un franc échec, mais enfin, ça n'avait pas le grand succès. Et il corrigeait la critique. Il était devant le découpage de la critique et il le corrigeait avec amertume, tellement avec amertume. Il flanche devant sa plume, devant ses corrections. Il se lève de table, sort, passe dans le vestibule, et dans le vestibule, crie « Yvonne !» Yvonne descend, nu, au moitié. Il était mort. C'était fini.
Être célèbre à 26 ans et en 1913, le succès est difficile à porter. Il y a très vite des excès, les vulgarités du succès. Et tout cela avec un petit livre d'une centaine de pages qui se vendra et se vend encore à plus d'un million d'exemplaires. Toi et moi.
Baisse un peu l'abat-jour, veux-tu? Nous serons mieux. C'est dans l'ombre que les cœurs causent. Et l'on voit beaucoup mieux les yeux quand on voit un peu moins les choses. Ce soir, je t'aime trop pour te parler d'amour. Serre-moi contre ta poitrine. Je voudrais que ce soit mon tour d'être celui que l'on câline. Baisse encore un peu l'abat-jour. Là, ne parlons plus, soyons sages. et ne bougeons pas. C'est si bon, tes mains tièdes sur mon visage.
Toi et moi. Ces trois syllabes lancinantes me suivront impitoyablement, dit Géraldi. Elles me reviennent sur des mouchoirs, des boîtes à bonbons. Il y a des librairies, toi et moi, des pâtisseries, toi et moi. Il y a sur la Côte d'Azur des villas, toi et moi, dont l'architecture ne me flatte guère. Je suis parrain d'amour chilienne, péruvienne, vénézuélienne.
J'aime une petite étrangement belle. Pourquoi, me dit-elle, êtes-vous jaloux? Cela se voit bien que je suis fidèle et n'aime que vous. Et ne plus vous aimer, mais c'est impossible. Vous me paraissez au milieu des gens tellement plus fins, plus doux, plus sensibles, plus intelligents. N'ayez donc pas peur, méchant que vous êtes. Je n'aime que vous, je ne suis qu'à vous. C'est très laid, monsieur, de faire le bête et d'être jaloux. C'est vrai, je la sens à moi tout entière. Son cœur n'est pas faible et n'est pas hardi. Elle est très fidèle, elle est très sincère. Mais moi, je me dis qu'à coup sûr, ailleurs, un autre homme existe. Plus parfait que moi, qui viendra vers nous, qu'il sera joyeux quand je serai triste, et qu'elle a du goût.
Je ne renie pas ce livre, c'est ma jeunesse. Mais il y a dans cette suite si brève deux ou trois poèmes dont je rougis et que je brûle de remplacer. Je te le défends. C'est Colette, Colette, qui a répondu cela à Paul Géraldi.
Toujours traverser l'Allemagne avec un peu d'effarement. En Autriche, j'étais chez moi. Je trouvais la France, je trouvais une France un peu orientale, n'est-ce pas, qui sentait déjà un peu la steppe, hein, qui sentait la montagne aussi. Et puis alors j'ai adoré ces gens-là qui nous adoraient. Qui nous adoraient. Chaque fois que j'allais en Autriche, et je disais toujours à mes amis, dans ma correspondance, j'écrivais « Ah, qu'étranger pourrait donc être un joli mot !» N'est-ce pas ? Et c'était ça, on était des étrangers, mais des étrangers qui étaient si sympathiques. D'abord la valse, n'est-ce pas ? Ravel est revenu, bouleversé par la valse. Alors, il y avait ça, la mienne. Et puis alors, les devantures des libraires étaient pleines de nos livres. Leur théâtre était très inspiré par le nôtre. Et il avait quelque chose qui avait très bouleversé à la fois Tristan Bernard, qui, dans son voyage, quand il est allé là-bas pour Bayreuth, Guitry, quelque chose d'amateur, disait-il, que nous n'avons pas. Nos virtuoses sentent le virtuose. C'était français. Une succursale de la France. Vienne, c'était une France française. Nous avons été d'une mal à l'aise.
Il y a encore à Vienne un empereur et un empire où l'on vit comme avant 89. Je vois le château de Schönbrunn, où est mort l'Aiglon. Tiens, revoilà Rostan. La longue et froide façade du Versailles autrichien. Et je vois ce jeune homme, mince, distingué, poète français à la mode, qu'une femme du monde amie présente à l'empereur. Et celui-ci, bon prince, lui offre le café.
Il était peu causeur, il était fatigué. Mais ce n'est pas un homme qui m'a fait une grande impression.
Les écrivains ne vivent plus à la cour. Il est vrai que cet empereur-là, tout en imposant autour de lui une étiquette surannée, allait chaque jour s'en reposer auprès de sa bonne amie dans un simple chalet. Dans les cafés de Grisling, où des branches de gui suspendues au-dessus de la porte d'entrée annoncent le vin nouveau, chacun danse, sans se soucier de qui est son partenaire, riche ou pauvre. Tandis que les amoureux délaissés rêvent solitaires en écoutant Schubert.
Senti une atmosphère musicale aussi intense, aussi intime, aussi simple, aussi vraiment dans le privé, émouvante, que m'ont donné les spectateurs viennois. Parce qu'il mêlait à ça un côté bourgeois. Les chanteurs ne font pas des feux, ne cherchent pas à faire des effets, sont des gens simples. Les comédiens, un peu plus. Le comédien, il reste un peu comédien. Le chanteur, non, il pense à sa voix, le chanteur. Il fait ham, 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 ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Je me rappelle un jour, je dis non, c'est des Viennois. Comment était le concert d'hier dont on attendait beaucoup? Ah ben nous n'y étions pas, même notre femme de chambre y était, nous allons l'interroger. Et comment c'était Marie hier soir? Oh, bien, monsieur, enfin, bien. Moi, je fais des réserves. Quelques réserves avez-vous? Eh bien, le deuxième mouvement, j'ai trouvé qu'il était un peu lent. Un peu lent.
Sarajevo, 1914. Pour la première fois dans l'histoire, un étudiant et un ouvrier se mettent d'accord afin d'essayer de détruire le passé. Leur coup de revolver fait basculer le monde. La Première Guerre mondiale oppose l'Autriche et la France à contre-cœur. Voici une femme étrange, Berthe Zeps. Sa sœur Sophie est devenue française en épousant Paul Clémenceau, le frère du Tigre. Alors ces deux femmes ont une idée folle, une grande idée. Réaliser une paix séparée entre la France et l'Autriche. Agents secrets de leur gouvernement, elles se rencontrent à Lausanne. L'entrée en guerre de l'Amérique étouffera leur ambitieux projet.
Oh, c'est la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. La bonté, l'activité, le talent, l'intelligence. Elle était très liée avec Clémenceau, qui l'appelait étonnante toquée. Elle l'avait fait venir plusieurs fois là-bas. Et elle l'avait fait parler avec l'empereur. Elle était adorée par Schnitzler et elle était adorée par Hofmannsthal, qui disait « Notre Berthe ».« Notre Berthe », elle disait. Elle était adorable.
Nous marchons sur des perles cachées dans la poussière. Voici Hofmannsthal. Hofmannsthal le poète, le chef de file des écrivains de sa génération. Je voudrais devenir très célèbre. Je voudrais être bon cavalier. Je voudrais savoir bien l'italien. Je voudrais recevoir à Noël des gravures anglaises. Il a 11 ans de plus que Paul Géraldi.
Il était très beau. Très beau, très élégant, très pondéré dans sa personne, très sensible, ultra sensible, très homme du monde, et en somme, assez peu écrivain. Pas écrivain dans le mauvais sens du mot, en tout cas, n'est-ce pas ? Un homme très correct, très cordial, de très bonne compagnie, charmant et très intelligent, extraordinairement intelligent.
Une aimable comtesse viennoise veut les réunir dans un dîner. Hofmannsthal écrit à Géraldi « Je n'aimerais pas vous rencontrer pour la première fois dans le monde. » Alors il prend son chapeau et ses gants, se rend à l'hôtel où se trouve Géraldi et va frapper à sa porte.
Je lui tends la main et il la recule. « Monsieur, nous venions d'être en guerre, n'est-ce pas ?» J'aurais quelques gênes à vous serrer la main sans avoir pris d'abord contact avec vous. N'est-ce pas ? Maintenant, je rentre, permettez-moi d'entrer. Et si vous voulez bien, comme il faut que nous nous connaissions très bien et très vite, je vais vous raconter ma prochaine pièce.
J'ai voulu fixer la mélodie d'une aristocratie mourante, dit Hofmannsthal à Géraldi en lui parlant de sa pièce Der Schwierige. Géraldi le traduit « l'irrésolu ». C'est Hofmannsthal lui-même, déchiré entre le passé et l'avenir, renonçant à tout, y compris à l'amour.
Les pauvres femmes, vous ne pouvez pas vous passer d'elles et au fond vous ne les aimez guère. Il ne doit pas être facile, dites-moi, de rester votre amie.
Suis-je donc affreux ?
Vous êtes charmant. Vous me faites l'effet d'un enfant.
D'un enfant ? Quand me voilà presque un vieil homme. À 39 ans, ne pas savoir où on en est avec soi-même, c'est une honte.
Je sais toujours, moi, où j'en suis avec moi-même. Ce n'est pas difficile, il ne m'arrive rien.
Vous êtes si sage.
Mais que voulez-vous que je sois d'autre ? C'est malaisé pour une jeune fille. Jouer les sentimentales et les grandes romantiques, ça ne m'irait guère. Je me préfère encore bourgeoise et pot-au-feu. Comme ça, voyez-vous, ça peut aller. Ça va.
Vous êtes adorable, Hélène. Et on peut tout vous dire à vous, sans réticence.
Que se passe-t-il ?
Eh bien, voilà. Pardonnez-moi, je voulais vous parler de...
De quoi ?
De mariage. Et oui, j'ai pensé... Enfin, c'est-à-dire... Des gens ont pensé...
Ont pensé ?
Non, non, pardonnez-moi, c'est absurde. Et vous n'avez besoin des conseils de personne. Épousez l'homme que vous voudrez, Neuf, par exemple, tenez. Oh non, non, pas Neuf. Quelqu'un plutôt de jeune, de frais. Stani ? Oui, oui, mon neveu Stani. C'est un honnête garçon, il sera fou de joie. Et vous, qui que vous choisissiez, quoi que vous décidiez, vous resterez la même, pareil à vous-même, toujours. Personne ne pourra jamais vous abîmer. C'est écrit sur votre visage. Ce beau visage. Votre beauté.
Oh non, pas vous, comte Carré. Pas de ces fadeurs-là dans votre bouche, à vous.
Non, soyez tranquille. Ce n'est pas tant à cette beauté que je pense qu'il y a quelque chose en vous de beaucoup plus troublant, quelque chose... Comment vous dire, j'allais dire... de décisif. Vous me comprenez mal. Oh, pardon. Moi-même, je me comprends moins bien quand je parle que quand je me tais. J'aurais pourtant voulu vous dire, c'est une chose que j'ai apprise là-bas, au front, que la guerre m'a révélée, qu'il y a quelque chose d'écrit sur les visages. Ainsi, tenez, sur le visage d'Antoinette, je lis très bien.
Non, vous croyez ?
Sur ce charmant petit visage, On lit une impression d'angoisse et de solitude si grande qu'on est presque effrayé pour elle. Et comme un reproche muet, pourquoi m'avez-vous tous abandonné ?
Nous ne comprenons que nous-mêmes. Et en nous-mêmes, que l'instant présent. Et la pensée présente, nous ne la saisissons que pendant que nous la concevons, tant elle est fluide en nous. Alors, qui peut comprendre Hugo von Hofmannsthal à Paris, place du Théâtre Français ? Si je dois rester pour la France un nom et une ombre, dit-il à Géraldine, pour vous, au moins.
C'était un homme extraordinaire.
Et Reinhardt, le grand Max Reinhardt. Le voici, sévère et souriant à la fois, manipulant comme personne ne l'a encore fait les foules en de somptueux décors. Il officie à Vienne, bien sûr, avant d'aller diriger le Berliner Théâtre, puis d'émigrer à l'avènement d'Hitler aux États-Unis. Il a 12 ans de plus que son nouvel ami Géraldine. 40 ans déjà, au moment de la guerre de 14. Cela ne l'empêche pas d'écouter les conseils quand il s'agit de Molière.
On jouait le malade imaginaire devant une grande cheminée dans laquelle il y avait du feu, un feu de bois, un véritable feu. Alors, c'était monté avec un goût charmant. Le malade imaginaire avait une robe de chambre un peu excentrique, mais d'un goût parfait. Et puis alors, il y avait un peu de réalisme mêlé. En parlant, il attrapait de temps en temps un gargarisme et il se gargarissait en public. Je lui disais, mais Reinhardt, c'est un peu trop. Nous sommes dans Molière. Molière n'aurait pas fait ça. Vous en êtes sûr ? Réfléchissez. J'aimais beaucoup mon gargarisme. Eh bien, nous en reparlerons demain. Et alors le lendemain, mon gargarisme. Il ne faut pas le laisser. Faut pas le laisser.
Géraldine lui fait découvrir Paris. Les acteurs, à cette époque les plus prestigieux du monde.
Enthousiasmé par Berry. Berry, c'est le plus bel acteur que j'ai jamais connu. Il m'a dit, c'est Arlequin. C'est bien ça. C'est le théâtre revit dans un Arlequin de Berry. Génial et catastrophique en même temps. Il était ivre tous les soirs. Je l'engueulais comme bien. Tu te fâches. Il y a des moments, j'avais le trac. Il ne savait pas son texte. Quand la direction a dit, il fait passer, il désapprend. C'est un acteur incomparable. Mais handicapé, il était saoul tous les soirs. Il m'a dit un jour, tu sais pas ce que je suis. Il était mon camarade de lycée. Mon lycée de Mignon. Tu sais pas ce que je vais jouer. Le diable. Ça, il sentait qu'il était ça.
Quel beau feu. J'aime bien le feu. Et lui aussi m'aime bien. Tenez, regardez comme les flammes sont prévenantes pour moi. Elles me lègent comme le ferait un jeune chien. C'est très agréable. Bon, pardonnez-moi. Je ne suis pas présenté. Moi, si d'ailleurs mon nom métis, on ne vous dirait pas grand-chose. Je viens de si loin. Oublié dans son pays, inconnu ailleurs. Tel est le destin du voyageur.
Il avait volé 3 bicyclettes là-bas. Il est emprisonné. Le commissaire de police m'appelait. Il vous donne comme référence. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je dis, c'est un grand acteur. Alors, ben, faut le lâcher. Mais il a volé 3 bicyclettes. Arrangez ça, monsieur le commissaire. Chez Sarah, c'était la discussion qui comptait. Se faire entendre. Une musique. Réjeanne, c'était tout autre chose. C'était un grand mouvement à donner où les mots n'apportaient plus. Elle avait jeté son âme. Elle avait craché son âme. Elle aspirait une grande gorgée d'air. Elle prenait une grande gorgée d'air et elle savait retenir sa respiration et son air. C'est ce qui lui permettait d'enchaîner des vers les uns à la suite sans respirer et de laisser couler une tirade tout entière. L'effet était prodigieux. On avalait un immense gorgée de poésie.
Ah, les acteurs, les actrices. Comme vous nous aimez, Paul Géraldi. Chacun, chacune d'entre nous, célèbre ou moins célèbre, est le centre d'un monde qui tourne autour de nous. Surtout, ce monde imaginaire en carton-pâte, en trompe-l'œil, qui nous plaisait tant. Cela, on ne l'entend plus maintenant. Ne se lève plus le rideau rouge.
J'étais un jour assis au Théâtre Français à côté d'une comédienne magnifique, extraordinaire, qui s'appelait Berthe Cerny, interprète du Caprice, interprète des Fausses Confidences, grande comédienne. Et nous étions assis là en attendant que le rideau se levât sur une répétition dite des couturières. À ce moment-là, les répétitions des couturières n'amenaient dans le théâtre qu'un très petit nombre de gens. Et nous attendions que le rideau se levât sur cette répétition qui était en retard, comme sont toujours toutes les répétitions des couturières. Alors nous attendions de bavarder avec elle dans une loge de choses indifférentes, quand tout d'un coup, Berthe Cerny me saisit le bras avec violence à me faire pousser un cri, et elle-même se renverse en arrière, met la main sur son cœur, et comme absolument pâmée, elle pousse un soupir. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle était souffrante. Est-elle souffrante? Et elle me dit, ah, que j'aime le théâtre. Tout simplement, la rampe venait de s'allumer, et la frange d'or du rideau rouge venait de s'illuminer. C'était le temple, c'était la féerie.
En janvier 1905, en Russie, les ouvriers des usines Pontilov en grève, avec à leur tête le pope Gapone, et d'autres popes en habits sacerdotaux, brandissant la croix et portant les icônes, se heurtent aux soldats du tsar à l'entrée de Saint-Pétersbourg. Regardez dans l'illustration le portrait du petit Tsarevitch, un enfant si mignon, avec en légende le futur tsar. Qui, à la rédaction du journal, imaginait qu'il ne régnerait jamais? La cérémonie touche à sa fin. Celle du drame politique comme celle du théâtre. Mais pas si vite, surtout à Paris. Lisez cette affiche publicitaire. Tout au monde est plus lourd qu'un léger papillon, tout excepté l'amour et le chapeau Léon.
C'est mon mari. Y a plus besoin de nous cacher qu'un
les acteurs portent tous des chapeaux. et font virevolter leur canne avec désinvolture. Ce sont les dieux du plaisir. Cette drôle de famille, par exemple. Le père, Lucien. Le fils, Sacha. L'épouse. La belle-fille, Yvonne. Et son futur mari, Pierre. Yvonne lui en fera voir de toutes les couleurs.
La vie s'écoule entre mes doigts. Ce n'est pas une image, en somme. La vie s'écoule entre mes doigts. Je sens l'eau qui fuit de mes paumes. Je pourrais faire sur le mur le compte strict de mes journées. Je pourrais mettre sur le mur ma vie bien vite dessinée. Tant de choses sont contenues dans le cercle de 2 semaines. Tant de choses sont contenues. La joie ensemble avec la peine. En quelques jours brefs et étranges, plus riches qu'aucun jour passé, en quelques jours brefs et étranges, toute la chance est entassée. Comme un peu d'eau prise à la source, toute la vie pour le buveur est là comme prise à la source. Il fallait bien garder l'honneur.
Freinet, adorable, adorable celui-là. Engueulé tout le temps par Yvonne Printemps.
Moi j'aimais beaucoup Freinet, je supportais mal Printemps. Mettais Freinet en boîte très souvent. Pendant les répétitions, c'était la même chose. Il était un peu son esclave, mais il la servait de tout son être. Il était son serviteur et l'on abusait. Je l'ai connu avec Sacha. C'était autre chose. Il résistait, lui. Oh, il résistait. De temps en temps, par exemple, elle sortait. Sacha, je sors. Tu rentreras très vite. Non, je ne rentrerai pas ce soir. Alors il disait, à tout à l'heure. Et puis elle revenait.
Et Lucien Guitry ?
Lucien Guitry, il était magistral, c'est bien simple. Il était magistral, il était simple, il était l'intelligence même, il était le théâtre même, la simplicité et la bonté même, ce que n'était pas Sacha. Hein ? Gentil avec Sacha. Quand Sacha, Yvonne et Lucien sortaient ensemble, Yvonne et Sacha étaient assis dans le coupé, dans le fond de la voiture, et le père Guitry sur la petite banquette, sur le petit strapontin, en face. Là, on ne pouvait pas admirer le père Guitry. Les répétitions du père Guitry. D'abord, il mettait ses comédiens autour d'une table, et puis lui-même était assis autour d'une table. On lisait la pièce une fois, deux fois. Et puis à un moment donné, il disait à ses comédiens, « Tu te gênes, tu te lèverais pas ici ?» Si, monsieur Guitry. Ben, lève-toi. Et puis, parfait. Puis toi, lève-toi à ton tour. Eh ben, tu es bien, là. Garde cette place. Et toi, tu peux bien. Et puis, la mise en scène se mettait comme ça.
Si l'on était raisonnable, est-ce que l'on se marierait? Puisque c'est inévitable, on se trompe 6 mois après. Ne serait-ce pas plus durable d'adorer qui l'on voudrait? Le désir est invariable, que de fois l'on varierait.
Et les jeunes, les espoirs, qui sont-ils à ce moment-là?
La petite Renaud. Je l'appelle toujours la petite Renaud, je l'ai connue au conservatoire, qui est chez La Voix. C'est d'un savant. Elle n'est pas bête. Une petite garce. Oh, peut-être s'agit maintenant. Elle a dû s'assagir avec Barreau. Moi, je l'ai connue, de très petite garce. Dans du Musset. Personne, je n'ai vu jouer Musset comme elle.
Et figurez-vous, mon cher Sanson, que je rapporte de Russie une surprise ravissante.
Une surprise? Contez-nous cela.
Ça n'a rien à vous cacher. C'est une pièce. Une comédie charmante, un bijou.
Mm-hmm, une pièce russe?
Oh, vous n'y songez pas. Une pièce française, mon cher. Et même, on ne peut plus parisienne.
Comment diable?
Eh bien, voilà. J'ai vu jouer cette pièce un soir de l'hiver dernier à Moscou.
Vous comprenez le russe?
Oui, un peu, mais ne m'interrompez pas tout le temps. Et autant que j'ai pu la comprendre, elle m'a paru charmante. Mais au point que j'en demandais le texte au comédien et que j'écrivis à un de mes amis à Paris pour en avoir la traduction, dans l'intention de la jouer moi-même à mon retour. Le temps passe, et quelques mois plus tard, alors que j'avais complètement oublié cette histoire, je reçois de cet ami une grosse enveloppe contenant, je vous le donne en mille, contenant tout simplement une petite comédie de M. Alfred de Musset, intitulée Un caprice.
Et alors?
Ben vous ne comprenez pas?
Pas encore.
Ça ne m'étonne pas. Eh bien, la pièce russe, mon cher doyen, c'était cela. C'était tout simplement la traduction du caprice.
Le critique, le Jean-Jacques Gauthier de l'époque, qui emplit et désemplit les théâtres d'un trait de plume, s'appelle Henri Bidou.
Toujours dispo, toujours là, couché à n'importe quelle heure, dînant légèrement, heureux, content, spectateur extraordinaire, docte, enthousiaste, amical, passionné, ému, merveilleux. Et alors, quand il vivait chez moi de temps en temps, alors il avait une chambre au premier étage qu'il aimait beaucoup, et le jour où son article pour Le Monde devait partir, la poste lui envoyait un facteur à 5 heures. Alors, à 3 heures, Bidou commençait son article. On le dérangeait, on parlait, ça ne le gênait absolument pas. À 5 heures, son article était fait. Il ne le relisait pas, il n'avait pas le temps. L'article partait, il était miraculeux.
Pour vous obliger de penser à moi, d'y penser souvent, d'y penser encore. Voici quelques fleurs bien modestes en voix.
Les célébrités ne se promènent plus sur la promenade des Anglais. Non. Nice, les villas de Cimier, c'est démodé. Ils ont découvert un petit village sans vacanciers. Ni la famille Fenouillard, ni Monsieur Hulot n'y passent leurs vacances. Mais Dunoyer de Segonzac, René Clair, Colette et le petit jeune homme pauvre qui, grâce à ses droits d'auteur, se fait construire une maison sur la colline de Beauvallon, juste en face. En face de quoi, au fait? Saint-Tropez.
Mon enfance, c'était la Bretagne. J'ai adoré la Bretagne. Mon père avait un bateau, Bretagne, 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 les vacances, Bretagne. Puis il est arrivé vers le milieu de l'année, une médiavité, comme dit Nietzsche, il est arrivé que la Bretagne, c'était trop dur pour moi. Alors je suis descendu dans le Midi. Et je partais au petit bonheur, je savais pas pour où. Valescure. Et sur le quai de la gare de Lyon, je vois un colosse, de celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était Lucien Guitry, le père de Sacha, à qui je dis oui, je vais à Valescure. Il me dit Beauvallon. Ah. Et je suis arrivé un soir à Beauvallon pour y écrire une pièce. J'ai écrit d'ailleurs un premier acte de pièce dans l'hôtel de Beauvallon. Et le lendemain, j'avais demandé qu'on mette une grande table dans ma chambre. Il n'y a jamais de table dans les hôtels. J'ai remarqué dans les chambres d'hôtel, il y a un immense lit et il y a une toute petite table. Moi, c'est le contraire. Je veux un petit lit et une grande table. Alors, on était en train de me monter de la cuisine, une grande table de cuisine, et de la monter dans ma chambre. Je vais regarder le pays. C'était Virgile. C'était le pays de Virgile. C'était toute la latinité. J'ai dit, je me fixe là à jamais. Il y avait une petite agence. C'était là qu'il fallait s'adresser quand on voulait avoir un terrain. J'achète un terrain. Lequel? Celui-là. Au bordure du golfe, je me suis installé en face de Saint-Tropez et je suis là depuis 40 ans. Saint-Tropez, c'était inaccessible. C'était Tombouctou. C'était l'inconnu de l'inconnu de l'inconnu. La route qui y menait, la route qui passe par Grimaud, était par moments assez sinueuse et quand il avait fait de grosses pluies, les voitures ne pouvaient pas y passer. Et quand il faisait de grosses pluies, il ne faisait pas beau temps, alors on n'osait pas y aller en bateau. La France était grande, vous savez, à ce moment-là. Elle était grande. À Beauvallon, j'ai pour moi, j'ai à côté de moi, un couple de gardiens, parce que ces maisons, il faut qu'elles soient gardées, c'est indispensable, qui sont des paysans adorable, un jardinier adorable. Ce sont des gens qui aiment les bêtes, ce sont des gens qui aiment les plantes et qui les aiment incroyablement, au point de les deviner, de les pressentir. Les bêtes, les oiseaux, viennent sur leurs mains d'eux-mêmes et picorent d'eux-mêmes sur leur bouche. Et même lui, un jour, a vu sur le quai de Sainte-Maxime un canard sauvage. Tout le monde était un canard sauvage, c'est très rare, hein, quand il se pose, et ça ne s'approche pas. Il a fait signe qu'on le laisse tranquille, il l'a approché. Il a appelé le canard sauvage qui est venu s'asseoir dans sa main. Il a parlé à ce canard sauvage. Et puis comme derrière lui on arrivait et qu'on allait s'en saisir, il lui a redonné l'envol, l'oiseau sauvage est reparti. Ce sont des sorciers, je les considère comme des sorciers.
Et Colette ?
Colette me dit, mais parle-moi de Saint-Tropez. Ben, allons-y ensemble, Colette. Et elle achète une maison. Elle aurait pu choisir mieux. Enfin, elle achète une maison. Elle s'installe à Saint-Tropez. Et alors, c'est là qu'elle écrit du haut. Moi, je lis ce livre. J'ai dit, Colette, je fais une pièce avec du haut. Elle m'a dit, tu me fais une pièce avec du haut ? Mais je te le défends. Elle m'a dit, c'est grave. Moi, j'ai très envie de la faire. Ben, attendez un petit peu, je vous apporterai. Et puis alors, je veux pas voir cette pièce, je veux la voir finie. Je veux pas que tu m'en parles. Alors, un an et demi après, Colette, rendez-vous, lecture. Alors, au lecteur, vas-y. Pourquoi tu fais ça ? Je fais ça parce que, Colette. Ah ? Soit. Continue. Pourquoi tu fais ça ? Un chef-d'œuvre. C'est beaucoup mieux que ma pièce. Colette, là, exquise. Nous étions devenus des camarades. Elle m'a invité à ses déjeuners qui étaient un peu lourds pour moi. Scatologique, peintre, second Zach. Tu t'amuses pas, toi. T'aimes pas tout ça, non. Elle n'écoute pas. On a le temps.
Le sujet de duo. Un homme adore sa femme, il apprend qu'elle l'a trompé. À notre époque, écrit Géraldi, ces choses-là n'ont pas une grande importance. On ne divorce pas pour ça. Il encaisse, la vie continue. Seulement un peu plus tard, il va se flanquer à l'eau. Je dois préciser qu'entre-temps, Paul Géraldi s'est marié. Au début, c'est une belle histoire d'amour.
Je venais de rencontrer Germaine Lubin. Nous devions collaborer ensemble, moi comme auteur et elle comme cantatrice. Elle faisait partie d'un groupe de l'opéra comique, mais ces messieurs et ces dames de l'opéra comique ne veulent pas d'une élève du conservatoire. Alors je suis chargé d'aller trouver Madame Germaine Lubin, Mademoiselle Germaine Lubin, et de lui retirer son rôle. C'était une triste corvée. Nous décidons d'aller voir ensemble Isadora Duncan. Il y a une matinée jeudi, je viens vous prendre et je vous emmène à Isadora Duncan. Son éblouissement, cette jeune fille qui n'avait à peu près rien vu, qui avait été deux fois à l'opéra dans sa vie, absolument éblouie, musicalement éblouie, bouleversée, muette dans le retour dans la voiture. Il est resté de ça un choc qui ne s'est jamais effacé. Et beaucoup plus tard, quand je l'avais épousée, quand j'avais fait mon service militaire, nous allons ensemble avec Eric, qu'elle ne connaissait pas. Car c'est ce premier prix du conservatoire, premier prix de chant, premier prix de musique, premier prix de piano, premier prix de quoi, ne connaissait pas Wagner. Je l'amène entendre la Valkyrie, n'est-ce pas ? Elle était muette d'émotion. Elle ne pouvait plus parler. Elle est dans la voiture qui m'a reconduisait chez elle. Elle n'a pas dit un mot. Les larmes jaillissaient de ses yeux. Elle s'est découverte, je crois, ce jour-là. Et moi, je la découvrais aussi, ce jour-là.
Et
était extrêmement belle. Et j'étais un peu jaloux de tous ces chanteurs. Et j'avais peur pour moi. Et aimer, c'est une crise de jalousie. C'est une crise de jalousie. D'avance.
N'aie pas peur, je vais m'en aller. Je vais te délivrer de moi.
Non, prends ton temps. Je quitte la maison. Nous ne nous rencontrerons plus, je te le promets. Gontier va me donner asile quelques jours.
Mais pourquoi ce n'est pas nécessaire? Ne te dérange pas pour moi. Un instant encore, veux-tu?
Ne nous sommes-nous pas tout dit?
Tout à l'heure, là, quand nous nous sommes séparés, il faisait presque nuit. Je te voyais à peine. Je voulais te parler. Je ne pouvais pas parler.
Tu tiens beaucoup à renouer cet entretien. Je ne crois pas que le sujet est épuisé. Quand tu tiens à mieux fixer en moi l'image de la femme qui a été ma femme, rentrant de chez un homme à 7 heures de nuit.
Je ne viens pas d'où tu crois.
Ah. Et d'où viens-tu donc?
J'ai marché dans le bois toute seule.
Toute la nuit? Ah oui, c'est déjà presque le matin.
Tu crois que je te mens? T'ai-je jamais menti?
Oui, alors qu'as-tu à dire? Allons.
Nous ne nous reverrons peut-être jamais plus.
C'est vraisemblable.
Et tu penses, toi, que tout est dit?
Que pouvons-nous avoir à nous dire à présent?
Il aurait donc suffi d'une heure, d'un instant, pour causer entre nous cet abîme sans nom. Pour que je ne sois plus pour toi qu'une étrangère, plus étrangère qu'une étrangère.
C'est toi qui t'en étonnes. Tu avais peut-être compté que nous resterions bons amis.
Moi, je ne te déteste pas.
Oh.
Tiens, il y a là, tu vois là, dans ce meuble, ce qui nous reste, enfin, ce que j'avais gardé de notre enfant. Tous ces portraits, puis tu sais, les petites choses.
Alors?
J'ai partagé. J'ai pris quelques photographies, j'ai laissé celles que je sais que tu préfères, que tu aimes. Celles, tu sais, de l'autre été. Je te les ai laissées, tu les trouveras là.
Eh bien, prends-les toutes.
Comment, tu ne veux pas?
Ou détruis tout. Alors, tu prétends, toi, tout oublier, mais tu veux que moi, je me souvienne. Tu me confies le soin d'élever des chapelles à tout ce que tu abandonnes. Ne compte pas sur moi pour ce soin, je veux oublier, moi aussi.
C'est ma meilleure pièce. C'est ma meilleure pièce. Enfin, c'était une pièce à 3 personnages, des décors très rigides, moi-même m'occupant des décors, très à la page, très intéressé, très brûlant dans tout ça, à une maison charmante, très gentille. Pierre, difficile, mais charmant, beaucoup de talent. Si Pierre n'a pas eu un plus grand nom, c'est qu'elle était au Théâtre Français. Elle était dans une troupe très belle, je me rappelle. Et au début, ça n'allait pas du tout. Je lui ai dit, mais c'est chanté, c'est une prose un peu chantée, il faut le faire sentir. Vous voulez me faire ça pour rien au monde. Allez. Je lui ai dit, mais c'est un poème, mais dissimulé. Faut pas le montrer, mais faut le sentir. Venez déjeuner demain. J'y vais le lendemain, 10 personnes. Je lui dis, tu ne pourrais pas dire un mot. Alors je lui dis, je ne déjeunerai pas si vous ne m'écoutez pas d'avance. Elle m'emmène dans sa chambre et elle me dit, allez-y. Je lui dis, j'ai compris. Vous ne l'aurez pas demain, mais vous l'aurez dans 8 jours. Quand les femmes sont pas bien, elles sont vraiment pas bien. Mais quand elles sont bien, ça va très loin.
Chagrin que tu lui fais, qui veux-tu qu'il en console? En amour, il n'y a ni crime ni délit, il y a des fautes de goût. Et l'adultère, c'est laid. On a beau ne pas s'aimer soi-même, on ne se trouve jamais assez aimé des autres.
Une femme extraordinaire.
Une autre femme.
Et puis je l'ai perdue. L'amour, c'est un passage dans la vie. J'ai connu cette aventure-là, j'ai connu la femme plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. C'est son faux pas. Faux pas. Et moi, assez dominateur, à cause de mon âge, bah, évidemment. Une femme qui a encore une jeunesse extraordinaire, logique. Après 25 ans, c'est logique. Non, non, j'en étais plus attristé que torturé.
Le fils de Géraldine s'est tué, à 36 ans, laissant sur sa table ces mots « Je suis las de vivre dans le mensonge et je n'ai pas assez de force pour vivre dans la vérité. » Voler un peu d'enchantement au passé. Oui. Mais le passé se défend. Il s'enfuit et disparaît. Le petit garçon qui, en 1890, avec sa baguette de cerceau, s'imaginait tenir une baguette magique, à 93 ans aujourd'hui, monte en voiture pour encore un voyage. Il se penche à la portière, me regarde et d'un geste de la main nous dit adieu. Passé tendre, rien ne peut plus à présent de ma chair ni de mon sang te déprendre. Je suis ton terme et ton séjour. Soit, habite-moi. Mets à jour dans les cryptes de ma mémoire tes tables et tes répertoires. Fais le compte de mes victoires, l'inventaire de mes amours. Travaille bien, vieil archiviste. Tes catalogues et tes listes engravelées dans mon cœur triste. Même pour m'attacher encore et me prendre à ton radotage, triche, rajuste l'image. Époussette, poudre d'or, farde la vieille aventure. Maquille, repeinturlure la figure et le décor. Insiste, reviens, rabâche, poursuis ta sinistre tâche d'étiqueteur et d'embaumeur. mais poursuis-la du moins dans l'ombre. Toi, ta poussière et tes décombres, je vous consigne dans mon cœur.
C'était une époque. Oh, je voudrais vous parler mieux de tout ça. C'était une époque. Ah, c'est plein d'images, tout ça. Elles se rebiffent, mes images, maintenant.
Marie-Jeanne, Lavallière, Brasseur.
Quand on a pénétré ces mondes-là, il y a de la boue, il y a de la lie, il y a du moche, et on ne peut pas séparer de ça. Non, c'était une époque, sapristi. Tous les vieillards disent la même chose. C'est vrai. C'est vrai, je suis bon critique, c'est vrai. Quand il y a une chose bonne ici, je vous assure que je ne la rate pas.
Merci Paul Giraldi. C'est Jacques Florent qui vous parle. Grâce à vous, nous avons pu voler un peu d'enchantement au passé. Catherine Seller, c'était la femme avec un grand F, un peu le toit de votre toi et moi. Nous avons reconnu au passage les voix de vos amis que la phonothèque de l'INA nous a prêtées. Voler un peu d'enchantement au passé. Cette émission a été réalisée par Jean-Claude Loiseau et Mireille Cross. Thank you.
C'était « Voler un peu d'enchantement au passé » avec Paul Géraldi, une émission proposée par Jacques Florent, diffusée la première fois le 22 décembre 1978 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the boy and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be his if only he would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss him most of all. Lesson, you'd be his if only he would call. In the wee small hours of the morning,